Rebâtir le temple, c'est le thème de l'intervention d'Étienne Dallaire, diacre du diocèse de Nîmes, membre de la communauté des Béatitudes, une intervention enregistrée lors d'une session de la communauté des Béatitudes à Lourdes en 2022. Rebâtir le temple, Étienne Dallaire.
Aujourd'hui, voilà, l'Église est un peu en plein bouleversement. Je pense pas seulement à cause de tous les scandales qui éclatent ici ou là, mais profondément, elle est en train de se repenser, puisque le pape a même convoqué un synode sur la synodalité. Alors quand j'ai appris ça la première fois, je me suis dit, tiens, un synode sur la synodalité, ça fait un peu le serpent qui se mord la queue, ça c'est... Mais non, finalement... Il y a derrière des pistes hein, de réflexion importantes sur la façon dont l'Église est structurée, la façon dont elle fonctionne, bien ou moins bien, la façon dont elle est organisée. L'Église est donc en train de profondément repenser ce qu'elle doit être et ce qu'elle peut-être elle devrait être. Alors... Vous savez, l'Église a traversé les siècles, puisque nous sommes là aujourd'hui. Elle a déjà traversé... Bonjour. Elle a déjà traversé deux millénaires. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'à la fois, il y a un dépôt dont l'Église est gardienne, un trésor, qui notamment est constitué par l'Évangile et le message de Jésus. Or, ce trésor, on ne doit pas y toucher d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de le remodeler, d'en enlever la moitié ou d'en rajouter autre chose. Donc il y a à la fois ce dépôt que l'Église transmet de siècle en siècle, mais ce dépôt, il s'incarne. Et forcément, l'incarnation, elle va varier. Suivant les dates, suivant les cultures, suivant les pays, etc. Hein? Et ça, c'est logique, c'est normal. Si le christianisme est la religion de l'incarnation, alors ce serait quand même un comble qu'il ne sache pas s'adapter, évoluer au fur et à mesure des circonstances, des contextes, etc. Hein? Donc, vous voyez, ce qui est difficile à faire, c'est la part des choses. Qu'est-ce qui est le trésor auquel on ne doit pas toucher? Et qu'est-ce qui peut changer sans que ça modifie le fond? Vous voyez? Donc, c'est les grandes questions actuelles. Alors, moi, je me suis dit, puisqu'on essaye de se repenser, c'est toujours bon de revenir un peu aux sources pour remonter à la base initiale, si vous voulez. Alors, je prétends pas que ce soit les seuls aspects de l'Église que nous devons explorer, mais il y a deux aspects qui me semblent très importants, qui font partie de la nature de l'Église, mais qui peuvent aussi connaître des évolutions en fonction de l'époque et du contexte. Le premier aspect, c'est que l'Église est une communauté. Et le deuxième aspect, c'est qu'elle est une communauté missionnaire. Alors, on va essayer de remonter à la source sous ces deux aspects, à travers notamment les actes des apôtres, certains passages des évangiles, voire certains passages des épîtres. Hein? Tous ces textes qui finalement nous en disent plus qu'on ne le pense, sur comment vivaient les chrétiens de la première heure et qu'est-ce qui était important à leurs yeux. Alors tout d'abord, l'Église comme communauté, le mot même d'Église, vous le savez, ecclesia, signifie rassemblement. Donc dans le nom même de l'Église, on a cette notion que l'Église est un groupe, est une assemblée. Au sens large. Elle est constituée, cette assemblée, par l'ensemble des femmes et des hommes qui croient en Christ et qui ont été baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. Si on veut donner une définition la plus large possible, vous voyez, c'est à peu près ça. Je n'entre pas ici dans les détails, entre guillemets, qui font qu'il y ait une église orientale, qu'il y ait une église romaine, qu'il y ait des églises évangéliques, etc. Vous voyez, on peut quand même regrouper tout le monde sous cette définition que je viens de donner. On parle souvent de l'Église comme un peuple. Alors c'est vrai que l'Église est héritière du peuple de Dieu qui était Israël. Elle est un petit peu la suite, hein, le prolongement. Mais à la grande différence, c'est que le peuple d'Israël, on en était membre par naissance. Si je naissais dans le peuple d'Israël, eh bien, j'appartenais au peuple d'Israël. Voilà. On pourrait dire que on était membre du peuple d'Israël de père en fils. Ou plus justement, si on veut être très précis avec le judaïsme, on était juif de mère en fils. C'est la mère qui compte. Parce que la mère, au moins, on est sûr de savoir qui c'est. Eh oui, mais c'est le bon sens du peuple d'Israël, ça. Donc la religion, entre guillemets, se transmet, l'appartenance religieuse se transmet par la mère. Grande différence avec l'Église, peuple de Dieu, c'est que je ne suis pas membre de l'Église parce que mon père l'était, ou ma mère l'était. Oui, alors peut-être on m'a baptisé tout petit, on m'a rien demandé, et je suis par mon baptême devenu membre de l'Église. Oui, mais enfin, si je ne fais pas ensuite un choix personnel, je dirais que cette dimension-là ne va avoir aucun impact dans ma vie. Je pourrais pas réclamer être membre de l'Église alors que j'ai dédaigné l'Église, j'y ai jamais mis les pieds. Je n'ai pas fait de catéchèse, je n'ai pas été confirmé, etc., etc., vous voyez. Alors, dans les statistiques, je suis peut-être dans la liste des baptisés, mais est-ce que c'est ça qui fait de moi un membre de l'Église? C'est à voir. En fait, l'Église est une assemblée, mais c'est pas une assemblée comme les autres. C'est une assemblée qui est convoquée par Dieu. C'est pas une assemblée comme l'assemblée des joueurs de pétanque, vous voyez. C'est une assemblée convoquée par Dieu et de personnes qui ont répondu à cette convocation, en fait. Et l'Église, du coup, elle est présence de Dieu au milieu du monde. Peu importe la taille de l'assemblée. Vous savez, Jésus a cette parole, là où deux ou trois sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Deux ou trois, c'est l'Église. Parce que ces deux ou trois sont là ensemble au nom de Jésus. Eh ben, c'est l'Église. Donc, quelle que soit la taille, le rassemblement de chrétiens constitue l'Église. Alors, d'où vient l'Église? Daniel Ange en a un petit peu parlé ce matin. Et je suis assez d'accord avec lui. Souvent, on entend dire « Oh, l'Église est née au jour de la Pentecôte par le déversement du Saint-Esprit sur les apôtres. » Et non seulement sur les apôtres, mais pour tous ceux qui étaient là et qui les voyaient et qui les entendaient. Naissance de l'Église. Alors, moi je veux bien qu'on considère ça comme la naissance de l'Église, mais enfin quand même, il existait quelque chose avant. De la même manière que quand un bébé vient au monde, il a déjà 9 mois d'existence. Il ne vient pas à la vie le jour de sa naissance. Il existe déjà, précédemment. Dans un autre état, certes, hein, sous un autre mode d'être. Mais néanmoins, il a déjà 9 mois d'existence. Et il y a, on peut dire, une vie embryonnaire de l'Église. Si on met sa naissance au jour de la Pentecôte, alors il faut revenir en arrière pour voir qu'il y a une Église embryonnaire déjà qui a précédé. Quand commence cet embryon ? Alors si on écoute le père Daniel Ange, on pourrait dire que l'Église, elle commence le jour où le Verbe se fait chair dans le sein de Marie. J'ai bien écouté ce matin. Mais si on poursuit, on peut dire aussi que l'embryon démarre ou alors se fortifie à partir du moment où Jésus en appelle d'autres à le suivre. De fait, un groupe se constitue et c'est déjà l'Église. Et très tôt, on voit que... Pourquoi est-ce que Jésus a appelé des hommes à le suivre, après tout ? Il pouvait pas opérer le salut du monde à lui tout seul. Aller de village en village, enseigner, guérir les malades. Pourquoi est-ce qu'il y a cette nécessité d'appeler tout de suite, ou enfin tout de suite, oui, dès le début de son ministère public, d'appeler les apôtres ? C'est pas, le but n'est pas de constituer un groupe. C'est pas le but premier. La constitution du groupe va être un moyen, en fait. Mais le but premier, c'est la mission. Et voilà le deuxième aspect qu'on avait soulevé au début. Si je reprends dans l'évangile de Marc, il appela les 12 et il commença à les envoyer en mission deux par deux. Vous voyez ? Tout de suite, voilà, c'est ça le but, c'est la mission. Il leur donne autorité sur les esprits impurs, leur prescrit de ne rien prendre pour la route, puis suivent des indications pratiques, qu'on a réentendues ce matin d'ailleurs, ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Voilà ce pourquoi ils ont été appelés. C'est comme pour partager la mission de Jésus. Le salut, ça reste la mission de Jésus. Mais voilà qu'il la partage et qu'il rend co-responsable de cette mission un certain nombre de personnes qu'il s'est adjoint. Parce que vous voyez bien que les apôtres ne font rien d'autre que la même chose que Jésus. Alors c'est déjà beaucoup, hein ? Chasser les démons, guérir les malades, bon. Mais ils font la même chose que lui. Donc c'est bien la mission de Jésus, en fait, qu'ils accomplissent. D'abord 12, et après il va y avoir l'appel des 72. Alors vous voyez, le cercle s'agrandit pour les besoins de la mission. Parce que comme le dira Jésus, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Donc il faut décupler les forces pour que la mission puisse partir dans tous les sens. Et que le plus de gens possible puissent entendre la bonne nouvelle. Alors revenons sur ce qui va constituer la base de cette mission, c'est-à-dire la communauté primitive. Vous connaissez ce texte dans les Actes des Apôtres, où tout de suite après la Pentecôte, se forme une communauté. Alors on n'en sait pas beaucoup de choses, mais quand même. Certains mettent un peu en doute la réalité de cette communauté primitive de Jérusalem. Et ils disent, oui, bon, tout ça c'est un peu idéaliste. Peut-être que cette communauté a surtout existé dans la tête de Saint-Luc, qui idéalisait un peu les choses, peut-être qu'il rêvait de ça finalement. Mais est-ce que la réalité a été telle qu'on nous l'a dit ? On peut se poser la question. Mais en même temps, c'est un peu gênant de se poser cette question. Vous comprenez pourquoi ? C'est que cette question, je peux l'appliquer à n'importe quoi d'autre. Je prends une parole de Jésus. Ah oui, mais est-ce qu'il a vraiment dit ça ? Ou est-ce que c'est ceux qui nous ont rapporté les choses qui ont... Vous voyez ? La résurrection de Jésus. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité ? Est-ce que c'est une réalité ? Ou bien c'est les disciples qui, déçus peut-être de l'échec que pouvait représenter la condamnation et la mort de Jésus, ont un peu falsifié le truc pour ressortir quand même avec quelque chose de positif en faisant croire qu'il était ressuscité. Alors oui, on s'arrête plus là. On s'arrête plus. sans rentrer dans les détails, essayons de voir un petit peu ce qu'il en a été réellement. Nous essaierons de le faire. C'est vrai qu'on assiste à des scènes qui sont quand même pas banales, notamment cette espèce d'élan de partage. Ceux qui ont apportent aux pieds des apôtres, et tout ça est partagé en fonction de ceux qui ont moins ou de ceux qui n'ont rien. C'est quand même l'évangile mis en œuvre, ça. Alors, je ne sais pas si tous ont fait cette démarche, dans quelle proportion, mais il y a dû quand même y avoir quelque chose pour qu'on en parle. Hein, ce partage des biens, très important, et c'était tellement important qu'il a fallu même que les apôtres nomment ce qu'on a appelé les diacres pour ce service de répartition des biens. Hein? Et ils en ont choisi 7, donc il y avait quand même du travail. Parce que les diacres, on dit qu'ils sont ordonnés pour le service des tables. Il ne faut pas croire qu'ils étaient ordonnés pour mettre le couvert. Le service des tables, c'est dans un sens très large, c'est-à-dire recueillir ce que les uns ou les autres apportent et redistribuer en fonction des besoins de chacun. Ça veut dire qu'on connaît bien les gens, les situations, les besoins réels de chacun pour que la répartition soit juste. Donc c'est un gros travail, si vous voulez. C'est toute la gestion économique, on va dire, de la communauté primitive. Et on comprend bien que les apôtres pouvaient pas passer leur temps à ça. Et qu'ils ont préféré passer leur temps à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Et traditionnellement, c'est vrai, ensuite, que dans l'histoire de l'Église, on voit que très souvent, les diacres, pendant des siècles, ont été un peu les économes officiels de l'Église. Même à Rome, le pape avait un ou plusieurs diacres qui géraient les affaires matérielles de l'Église. Vous voyez l'exemple fameux de Saint Laurent, hein, diacre, qui apprend que les Romains vont faire une descente, vont prendre les biens dont l'Église dispose. Sachant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les devants et il distribue tous les biens de l'Église aux pauvres. Et quand les Romains arrivent, il n'y a plus rien. Ce qui lui vaut quand même le martyre. Bon. Mais voilà, il y a certainement eu quand même un vrai élan de solidarité, de partage, suite à la Pentecôte. Et là, vous voyez, par exemple, c'est une question sur laquelle on peut s'interroger, on y reviendra peut-être si on a le temps, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que l'Église est un vrai lieu de partage et de solidarité? Est-ce que l'Église aujourd'hui est suffisamment communautaire? C'est une vraie question à se poser. Hein? Non, ça fait pas peur. Moi, je suis d'origine protestante. Hein? Mes parents étaient protestants, pratiquants, réformés. Eh bien, je me souviens encore, tout petit, que ça m'a marqué, hein, mais c'est que à la maison, tous les mois, mes parents donnaient la dîme à l'Église, 10% de leurs revenus. Je ne suis pas sûr que beaucoup de catholiques le fassent aujourd'hui. S'ils le faisaient, mon Dieu, on aurait beaucoup moins de soucis. C'est clair, hein? Donc, est-ce que on va assez loin dans le partage? Mais c'est pas contraint et forcé. Hein? Faut aussi que ça vienne d'un élan du cœur, si vous voulez. Alors, c'est difficile de distinguer, vous voyez, communauté et mission, en fait, parce que tout va se tenir. La communauté primitive, quand ceux qui sont en dehors la regardent, c'est un témoignage. Voyez comme ils s'aiment. Il se passe quelque chose, là. C'est un témoignage. La qualité du partage, de la solidarité, de l'entraide, est un témoignage pour ceux qui voient ça de l'extérieur. Alors, essayons de voir un petit peu davantage maintenant la mission Ou alors on en termine sur l'Église primitive, ça sera déjà peut-être un petit peu plus simple que de faire l'aller venue. Que vivait la petite communauté, même avant la communauté primitive, que vivait le petit groupe des apôtres à ce niveau-là? Ben, on ne sait pas grand-chose, mais on sait quand même qu'ils ont une bourse commune, donc il y a un partage des revenus, on va dire, hein. Que cette bourse, eh bien, elle va faire face à leurs besoins, ensemble, quand il faut acheter du pain. C'est pour tout le monde. On sait aussi que des femmes relativement aisées suivaient Jésus, donc elles devaient aussi en partie pourvoir aux besoins de ce petit groupe du début. Est-ce qu'ils vivaient vraiment ensemble, sous le même toit? Ben, ça semble difficile. C'est quand vous voyez la maison de Saint-Pierre aujourd'hui à Capharnaüm, elle est le quart de cette salle. Comment est-ce que Jésus et par exemple les 72 auraient pu vivre sous le même toit, vous voyez? Je pense pas. Je pense pas qu'on en soit arrivé là. Et dans l'Église primitive qui va se développer ensuite sous l'impulsion notamment de Saint Paul, est-ce que les chrétiens vivaient tous ensemble sous le même toit? Il y a peu de chance. Il y a peu de chance, pourquoi? Parce que vivre tous ensemble sous le même toit, c'est vraiment se faire repérer, hein. C'est pas discret. Or, nous sommes dans une période où les persécutions vont se déclencher très vite. Donc, si on est tous réunis au même endroit, c'est du gâteau pour le persécuteur, hein. Donc, je pense que dans les premiers temps, les chrétiens étaient un peu chacun chez eux. Mais à tour de rôle, leur maison servait d'église, en fait. On n'avait pas de bâtiment, église, hein. Pouvait pas. Donc, c'est la maison d'un tel. On s'y retrouve le jeudi soir. Et puis, le samedi soir, on va chez l'autre, voyez. Et l'Église, comme ça, se transportait en quelque sorte d'une maison à l'autre. On est en train de retrouver un peu cette forme-là dans certains villages où l'Église est fermée, il n'y a plus de curé résident. Eh bien, les réunions peuvent se faire chez Madame Untel et puis une autre fois chez Monsieur Truc. C'est l'Église domestique, en fait, hein. Il existe à l'époque de Jésus une expérience communautaire forte qui est la communauté des Esséniens à Qumran. Mais on voit bien que Jésus n'a pas du tout mis ça en place en ce qui concerne ses disciples. Les Esséniens à Qumran, il faut bien comprendre, c'est quand même une grosse, grosse exception dans le judaïsme. Au cours des siècles, le judaïsme n'a que rarement engendré une communauté. Alors, on se retrouve à la synagogue pour la prière. Ok, on peut parler de la communauté juive. Oui, mais chacun vit chez soi. Mais je veux dire que le judaïsme n'a jamais engendré une sorte de communauté, entre guillemets, religieuse. Vous voyez? Comme ça va abonder dans le christianisme. Et puis même à Qumran, c'est les lieux communautaires qu'on partageait. Mais l'habitation était individuelle. Parce que la plupart du temps, on était sous tente ou dans des grottes et on se retrouvait dans les lieux communs pour le repas, la prière, voire exercer son métier. Tout ça était regroupé en commun, mais l'habitation elle-même restait individuelle. Et on ne voit nulle part Jésus incité à entrer dans ce style de vie. C'est pas son propos finalement. Je me dis, il nous laisse le choix. Il n'a pas envie de mettre en place une structure, il a envie que les cœurs changent. Et après, eh ben, à nous de choisir comment on veut incarner, hein, notre foi. Alors l'Église va donc, et dès le début nous l'avons vu, être dépositaire de la mission de Jésus. Vous voyez, il serait faux de penser que Jésus fait sa mission, qu'ensuite, après la résurrection, zout, il remonte au ciel auprès du Père et puis il dit à l'Église, hey, maintenant, C'est votre mission qui commence, moi terminé, hein? Mon boulot est fini. Non, c'est faux, parce qu'il n'y a qu'une seule et même mission, c'est le salut du monde. Et donc, Jésus, lorsqu'il n'est plus présent là, au milieu des disciples, eh bien la communauté chrétienne va continuer la mission de Jésus. On ne peut pas dire qu'il y a une mission de Jésus puis une mission de l'Église. Ça, ça veut rien dire. Hein? La mission qui est la nôtre aujourd'hui, c'est la mission de Jésus. Et on pourrait même aller un peu plus loin en disant que la mission que nous essayons d'accomplir, c'est Jésus qui l'accomplit à travers nous. Mais c'est toujours lui le patron, si vous voulez. Hein? Nous ne sommes que des serviteurs. Alors, il leur a donné comme consigne d'aller proclamer partout l'Évangile, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas une petite mission. Hein. Et ils ont trois fois rien comme moyen. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Et puis, comment faire? Comment s'y prendre? Ils sont devant quand même quelque chose d'extrêmement difficile, mais justement, l'Esprit est donné. Et c'est lui qui va guider les choses. Beaucoup appellent les actes des apôtres le cinquième évangile, l'évangile de l'Esprit-Saint. Parce qu'il est partout. Quand vous relisez les actes, il est partout. C'est lui qui guide les affaires. Hein. Paul veut aller là, l'Esprit-Saint lui dit non, c'est pas le moment. Tu vas plutôt aller dans l'autre sens. Mais c'est lui qui gère, en fait. Hein. Et puis c'est lui qui touche les cœurs. Si l'Esprit-Saint n'était pas à l'œuvre, on pourrait rentrer chez nous tout de suite. Ce ne serait même pas la peine d'insister. Donc c'est l'Esprit qui prend les choses en main, on pourrait dire, et qui va guider les premiers chrétiens dans la mission qui est la leur. Alors c'est difficile, mais chacun a quand même reçu la grâce de Pentecôte. Et la grâce de Pentecôte, si vous faites attention au récit, c'est pas tout le monde sous la même douche, mais c'est l'Esprit-Saint est donné à chacun, mais sous une forme qui lui est propre. Chacun a une petite flamme sur la tête qui descend. Là. On le voit dans les icônes de Pentecôte. Ils ont chacun un petit lumignon. Là. C'est-à-dire qu'ils reçoivent tous l'Esprit, mais chacun d'une manière particulière. Parce que chacun est particulier, qu'on n'a pas tous besoin des mêmes choses, qu'on n'est pas tous appelés à faire les mêmes choses, donc la grâce nous est donnée en fonction de ce que nous sommes. Même si c'est le même esprit. Cet Esprit Saint, on voit qu'il leur donne un zèle missionnaire. Regardez le discours de Pierre à Pentecôte. Étonnant. Pierre, pêcheur de Galilée. Qui n'a pas fait de hautes études. Il devait savoir lire et écrire, je pense, comme tout enfant juif de l'époque. Hein, pour lire la Torah, c'est pour ça qu'on leur apprenait à lire, hein, pour qu'ils aient accès à la parole de Dieu. Mais autrement, Pierre n'est pas quelqu'un d'hyper cultivé, qui a appris la rhétorique. Mais on le voit tout d'un coup se mettre au premier rang et faire un discours mais qui est magnifique, parce qu'il est très étayé, son discours. Hein. Il a le zèle missionnaire, et il a aussi ce qui va avec, les compétences nécessaires pour remplir cette tâche. Ça n'est pas facile, pourquoi ? Parce qu'ils annoncent la mort et la résurrection du Christ à une foule extrêmement bigarrée, dans des contextes extrêmement différents et qui n'ont pas la base. Ils n'ont jamais entendu parler de rien. Vous pouvez pas prêcher en vous appuyant sur Abraham, Isaac, Jacob. C'est pas qui c'est. Vous pouvez pas vous référer aux 10 commandements donnés à Moïse. Ils en connaissent rien. Difficile, hein? On arrive sur un terrain complètement vierge. Alors, c'est même pas la peine de leur expliquer en quoi Jésus est le prophète annoncé, est le Christ annoncé par les prophètes. Ça veut rien dire. Donc il va falloir leur tenir un autre discours. Mais c'est difficile. Parce que le monde n'est pas chrétien, le monde auquel ils s'adressent. Et n'en a rien à faire, en plus. On est un petit peu dans une situation analogue, aujourd'hui. Mais c'est pire. À mon sens, c'est pire. C'est quand même un monde qui a été évangélisé. Qu'on le veuille ou non, même si notre société aujourd'hui a tendance à rejeter ses racines chrétiennes, hein. Oh là là, surtout pas. Bon. Ben, tu rejettes pas ton grand-père, c'est ton grand-père. Donc, notre société a des racines chrétiennes. Je comprends même pas qu'on puisse le nier. Ou alors, faut rien savoir de l'histoire, hein. Mais ces racines chrétiennes, notre société s'en est en quelque sorte débarrassée. Elle pense qu'elle a fait le tour de la question et que ce problème-là est résolu, n'est-ce pas ? Donc c'est plus difficile aujourd'hui d'annoncer la bonne nouvelle sur un terrain qui a été évangélisé mais qui n'est plus chrétien et qui d'une certaine manière à rejeter le christianisme. Oui, c'est plus difficile que d'arriver sur un terrain complètement vierge, qui n'a jamais entendu parler de rien ni de personne. Donc notre tâche, elle est difficile. Nous sommes dans un champ qui n'est plus chrétien et qui n'a aucune envie de l'être. Difficile aussi pour les premières communautés, on va voir un petit peu comment saint Paul va essayer de s'en sortir. Difficile pour les premières communautés parce que sur quoi elles vont prendre racine? Si ce sont des communautés d'origine païenne, encore une fois, ils n'ont jamais rien entendu de tout ce qu'on considère comme l'Ancien Testament, hein. Ils connaissent rien à ça. Bon. Et c'est peut-être même pas nécessaire de leur en parler dans un premier temps. On va brouiller les cartes. Bon. Donc ils n'ont pas d'écriture pour s'appuyer dessus. Il faut bien réaliser que au moment où Paul va engendrer des communautés chrétiennes, l'évangile n'existe pas. On n'a pas de texte. On n'a rien. Le premier écrit du Nouveau Testament, c'est la deuxième épître de saint Paul aux Thessaloniciens. Ouais. C'est le texte le plus ancien qu'on ait retrouvé. Alors voilà, ça c'est la question. On n'a pas d'évangile datant de cette époque, mais peut-être qu'à l'époque il y en avait. Puis ils ont été perdus. On les a pas retrouvés, nous. Bon, c'est possible. Mais enfin quand même, vous voyez, les bases sur lesquelles la communauté peut s'appuyer, elles sont extrêmement ténues. Alors, elles vont s'appuyer sur l'enseignement que peut donner Paul ou Pierre ou un autre apôtre de passage, un Barnabé ou un des disciples de ceux-là. On va s'appuyer sur leur enseignement. Mais c'est tout ce qu'on a. Heureusement que l'Esprit-Saint est dans le coup. Sinon, je pense que l'expérience aurait tourné court. Et on aurait eu de multiples dérives dans tous les sens. Bon, il y en a eu. On suppose bien, quand on lit l'épître ou les épîtres aux Corinthiens, qu'il y a des soucis. Hein? Ben, il y a des soucis parce qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de dogme, si vous voulez, voyez. On n'a même pas le credo, mais imaginez ça. On n'a pas de credo. Ça va venir que plus tard. Donc on comprend bien que au moindre petit coup de vent qui passe, la communauté peut partir dans un sens ou dans un autre. Donc gros travail pour saint Paul. Alors comment est-ce que saint Paul voit la mission et comment est-ce qu'il va la mettre en œuvre? Je dirais en gros que il me semble que saint Paul a deux soucis majeurs dans la mission. Et ça aussi, ça peut être intéressant pour nous aujourd'hui. Il a le souci de la mission qu'on pourrait appeler ad intra, c'est-à-dire à l'intérieur même des communautés chrétiennes. Il s'agit de faire grandir la communauté qui existe, de l'édifier, de la fortifier, de l'enraciner dans la foi et dans la connaissance de Dieu. Alors, il y a tout un travail à faire et on voit comment la communauté essaye de se structurer pour tenir, pour se redire les enseignements des apôtres. Vous voyez ? Il y a tout un travail à l'intérieur. Et c'est un souci de Paul. En étudiant d'un peu plus près les voyages de saint Paul, moi au départ je pensais que saint Paul était parti tous azimuts dans toutes les directions. Il voulait évangéliser le monde méditerranéen à lui tout seul. Vous voyez, alors, il en fait des kilomètres. Mais quand on étudie les voyages de saint Paul, mais il fait toujours le même trajet. Les trois voyages missionnaires se ressemblent comme des gouttes d'eau. Ah, on se dit, bah là, je comprends plus, là, alors. Il faut évangéliser le monde, même si ça n'est que le monde méditerranéen, c'est déjà beaucoup. Mais pourquoi il repasse toujours au même endroit? Et il retourne à Iconium, et il retourne à Éphèse, et il retourne, c'est toujours les mêmes. C'est par souci, justement, d'édifier, de fortifier les communautés qui sont nées au cours du premier passage, vous voyez. Pas les abandonner à eux-mêmes comme ça, mais 2 ans après, j'y repasse pour voir où ils en sont. Donc il y a ce souci de fortifier les communautés existantes, de ce qu'on peut appeler donc la mission ad intra. Est-ce que notre Église a eu assez ce souci en interne ? D'édifier la foi des chrétiens, de la fortifier, de la faire grandir, de l'étayer. Question à se poser. Et si la réponse est plutôt négative, alors comment aujourd'hui on peut s'y prendre ? Quels moyens on va se donner pour que nos communautés soient moins fragiles, moins friables, si vous voulez, moins superficielles, pour qu'elles s'enracinent davantage dans la prière, dans les Écritures. C'est un vrai souci. Alors, il y a également deuxième type mission, la mission ad extra. Alors, ça, c'est plus facile à comprendre. Ad extra, c'est donc la mission vis-à-vis du monde qui ne connaît pas la bonne nouvelle. Mais ça n'est pas forcément plus facile pour autant. Mais les problèmes sont différents, vous voyez. Comment est-ce que saint Paul s'y prend? Il a un petit peu toujours la même stratégie. Quand il arrive pour la première fois quelque part, où il va? À la synagogue. Pourquoi? Bah parce qu'eux, ils ont les bases. À eux, je vais pouvoir leur parler de Jésus, véritable Messie, annoncé par les prophètes. Ils vont savoir à quoi ça correspond, les prophéties messianiques. Hein? Donc, si ça prend, eh ben, c'est bon, parce que déjà, le terrain, il est solide. Voyez? Donc, il commence par la synagogue. En même temps, il se dit, si je suis bien accepté, etc., je vais avoir un joli carnet d'adresses. Donc, ils vont me faire une porte ouverte dans cette ville que j'ignore, que je ne connais pas. Alors, il est, selon les cas, accepté à bras ouverts, c'est assez rare, toléré, voire le plus souvent des cas, rejeté. Bon, il y a une fermeture à partir du moment où il commence à parler de Jésus de Nazareth comme le Messie. Et parfois, ça peut aller loin, il peut se faire éjecter, tabasser et laisser pour mort dans le fossé. Bon. Mais c'est sa stratégie. Une fois que cette stratégie a commencé sa première étape, si c'est rejet, eh bien alors il va se tourner vers les païens. Et là, il va commencer à prêcher, sans doute sous un autre mode, vous voyez, il s'adapte. À prêcher la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Oui, il s'adapte. On le voit par exemple quand il est à Athènes et qu'il rencontre le cercle des philosophes à Athènes qui se retrouvent tous les jours pour papoter et refaire le monde, hein. Mais il ne les prend pas sous le même angle du tout qu'il a pris les Juifs à la synagogue d'Antioche de Pisidie, par exemple. C'est pas du tout le même discours, hein. Et alors il est très fin parce qu'il se glisse dans la culture locale. Et il attaque les philosophes, pas de front. Il leur dit, tiens, tiens, vous en avez des dieux et des statues de dieux chez vous, là, dans les rues, ça pullule, on se croirait à Lourdes. Bon. Il dit, tiens, je me suis arrêté devant une statue, c'était marqué, statue au dieu inconnu. Ah ben, vous êtes fort, alors, hein. Vous adorez même un dieu que vous connaissez pas. Eh bien, figurez-vous que ce Dieu inconnu, moi je le connais. Et je vais vous en parler. Vous voyez comment il part du contexte dans lequel il se trouve. Et je pense que si l'Église a, si l'évangélisation a quand même fonctionné d'une manière étonnante, hein, au cours des siècles, c'est parce qu'il y avait cette souplesse d'adaptation aux cultures. Parce qu'on n'arrivait pas comme un bataillon de parachutistes pour dire aux gens, vos dieux, ça vaut rien, vos traditions, mettez-les à la poubelle, nous, on vous apporte la vérité. Et si on fait ça, c'est une catastrophe. On est à l'inverse de l'évangile. Mais il y avait, on tient compte de ce qu'on trouve. Et le coup de génie, c'est de se dire, comment est-ce que on va pouvoir évangéliser, christianiser ces traditions-là, qui en soi sont peut-être pas forcément mauvaises. Alors, moi j'aime beaucoup les églises d'Afrique parce que je trouve qu'elles ont un petit coup de génie là-dessus, que nous on a parfois pas bien. Une fois j'étais dans la cathédrale de Kaya. Kaya c'est une ville du Burkina Faso qui est jumelée avec le diocèse de Nîmes. Et donc chaque année, l'évêque allait à Kaya et il emmenait une petite délégation avec lui. Bon. Et une année, il m'emmène. Alors j'étais dans la cathédrale de Kaya et je tombe devant le tabernacle. Alors il était bizarre ce tabernacle. Vous voyez, d'habitude, on reproduit plus ou moins la façade du temple de Jérusalem. En gros, hein, on a souvent deux colonnes, un machin au-dessus. Bon, c'est la maison de Dieu, le temple. Et puis là, c'était bizarre. On aurait cru une maison, mais... Alors, je dis au curé de la cathédrale, je dis, mais bizarre votre tabernacle là. Pourquoi vous l'avez fait comme ça? Il me dit, viens avec moi, je vais te montrer. On sort dans la rue, on fait quelques centaines de mètres dans la rue, on arrive devant une maison, il me dit, regarde, c'était exactement la maison. La reproduction du tabernacle, ou plutôt le tabernacle était la reproduction de cette maison. La même façade, les mêmes couleurs. Ben, il me dit ça, c'est la maison du chef. Génial. Tout de suite, eh ben, dans la cathédrale, on comprend qui est le chef. C'est Jésus. Voilà. C'est la maison du chef. Vous voyez? Et je trouve qu'ils ont justement cette souplesse, cette adaptation pour ne pas tout bouleverser, mais pour habiter finalement ce qui existe. Et je pense quand même que la réussite, entre guillemets, du christianisme, les premiers siècles, elle est due à ça en grande partie. Pourquoi je disais ça? Oui, l'adaptation, alors ça nous pose aussi des questions aujourd'hui, l'adaptation à notre monde aujourd'hui. Est-ce qu'on utilise le bon vocabulaire? Il va tellement vite. Est-ce que c'est un coup de génie? Non, je ne devrais pas dire ça, mais pardonnez-moi par avance. Est-ce que c'est un coup de génie d'avoir remis consubstantiel dans le credo, voyez-vous? Demandez aux gens qui passent dans la rue, ça veut dire quoi, consubstantiel? Ça ne me paraît pas être une bonne adaptation, vous voyez? Il faut qu'on se pose ces questions de vocabulaire. Mais c'est pas parce qu'on va utiliser un autre mot qu'on aura perdu l'essentiel. Il faut quand même se faire comprendre. Si je m'adresse à des gens dans un langage de la tribu, la petite tribu catho, là, en utilisant que le petit vocabulaire catho, mais ils me comprennent pas. Alors, c'est pas la peine que je leur parle. Donc, si je veux qu'ils me comprennent, il faut quand même que j'adapte mon vocabulaire. Quel vocabulaire j'emploie? À quel moment c'est le meilleur moment pour intervenir aussi? Parce que si j'interviens à contre-temps, c'est foutu. Il faut que j'arrive à intervenir au moment où c'est mûr, hein, où il y a une porte qui s'ouvre. À la paroisse, je sais que les gens se grattaient la tête. Ah oui, mais comment retrouver les gens qui ne viennent pas? Comment c'est possible? Si on va chez eux, ils vont pas nous recevoir. Je leur dis, mais vous enterrez combien de personnes par an? Ah ben, il y a tant d'enterrements. Je dis, ben alors, c'est pas le moment là? C'est pas le moment d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection? Là, ils sont prêts là. Vous voyez, ils sont pris émotionnellement, affectivement. La mort d'un proche leur refait poser les questions de fond. Il faut en profiter, parce que ça durera pas. Hein. Dès le lendemain, on pensera à autre chose. Donc, voilà. Là, ils sont là. Eh ben, allez-y. Pourquoi vous grattez la tête de dire comment on va rencontrer les gens? Ils viennent. Et ils sont demandeurs. C'est eux qui demandent. Alors, profitons-en. Vous voyez, il y a des occasions comme ça que peut-être on manque. Des moments favorables. Hein. Oui, cette évangélisation de saint Paul aussi, on voit comment il la confie aux communautés locales. C'est-à-dire, il crée une communauté, il va essayer de l'édifier, de la fortifier, et après, à vous de jouer. Moi, je ne vais pas cavaler partout. Et on s'aperçoit qu'il y a des communautés. Par exemple, la communauté de Colosse, il y a une épître aux Colossiens. Eh bien, on sait tout à fait que Paul n'a jamais mis les pieds à Colosse. Il n'est jamais passé. Il ne les connaît pas. Il leur a fait une épître. Alors, d'où ils sortent, ceux-là? Eh bien, ils ont été évangélisés par les chrétiens d'Éphèse, qui se trouvent à quelques dizaines, 50, 60 kilomètres, je ne sais plus exactement aujourd'hui, hein. C'est les chrétiens d'Éphèse qui ont été évangélisés, Colosse. Et on voit aussi, je crois que c'est dans l'Épître aux Colossiens, au début, il dit, une fois que vous aurez lu cette lettre, passez-la à ceux de... Je sais plus, c'est... Qui est à côté de Colosse. Ben, le nom... Laodicée, voilà. Laodicée, c'est presque deux villes qui se touchent. Ou pas. Alors, quand vous aurez fini de la lire, vous la passez aux autres, là. Hein. Donc on voit comment les épîtres de Paul, elles vont circuler. Mais comment aussi ce sont les chrétiens du cru qui sont responsables de l'extension de l'Église et de l'Évangile. Bon, je pense que j'ai fait un petit peu rapidement le tour de ce que je voulais dire. Il y aura encore beaucoup de choses, mais bon. Vous voyez les questions alors qu'il faut que nous nous posions aujourd'hui. Comment nos paroisses, qu'on appelle communauté paroissiale, mais enfin... entendons-nous, quoi. Hein. Il y a beaucoup de communautés paroissiales qui ne sont pas beaucoup de communautés. C'est un peu de l'usage abusif de vocabulaire. Comment est-ce que nos paroisses peuvent devenir davantage communautaires? Ça, c'est une question à se poser. Et comment ces communautés peuvent devenir davantage missionnaires? Au lieu de faire tourner, vous voyez, la boutique, de réunir toujours les mêmes autour des mêmes thèmes, comment est-ce qu'on va faire pour être missionnaire? Quelles initiatives on peut prendre? Vous savez, le Nouveau Testament témoigne d'une grande créativité dans tout ça. Et à nous aussi de faire preuve de cette grande créativité. Mais il ne faut pas trop se tordre les méninges, je veux dire, l'Esprit Saint est capable de susciter des tas de choses qui peuvent nous surprendre d'ailleurs. Hein. Et vous voyez, je pense, j'ai appuyé sur communauté et sur mission. Communauté, ça me semble important parce que le monde a besoin aujourd'hui de lieux chaleureux, de lieux où on est accueilli. Comme ça. Pas parce qu'on est monsieur machin ou qu'on a... Non, parce qu'on est ce qu'on est, c'est tout. On est accueilli tel qu'on est. Le monde a besoin de lieux d'accueil, d'écoute. Il a besoin de retrouver le sens de la vie. Donc, est-ce que nos églises sont ces lieux privilégiés où le monde va pouvoir trouver ce dont il a besoin ? Aujourd'hui, on assiste à un succès assez important des églises évangéliques. Alors, plutôt que de dire « Ah ben, c'est pas bien, ils vont chez les évangéliques », il vaut mieux se dire « Mais pourquoi ? Pourquoi ça marche chez eux et que ça marche pas chez nous ?» Et un des points forts, je pense, des églises évangéliques, c'est justement cet aspect fraternel, chaleureux. Si vous y allez comme ça, hein, pour la première fois de votre vie, vous allez mettre les pieds au temple, ou vous allez voir que vous ressortez pas comme vous êtes venu. Hein. Ah, vous allez pas rentrer chez vous sans que personne ne vous ait adressé la parole. Ah, ça c'est clair. Pas pour vous mettre la main dessus, vous voyez, mais tout de suite pour tisser un lien chaleureux, voire vous inviter à manger, tout de suite, vous voyez. Il y a une chaleur fraternelle que nous ne trouvons pas ou peu dans nos paroisses. Donc, hein, vous voyez, l'aspect communautaire est très important vis-à-vis du monde qui joue, lui, la carte de la solitude, de l'individualisme, et c'est de ça que les gens souffrent le plus. Donc, quand ils arrivent quelque part et que c'est pas ça qui prime, ça fait du bien. Hein. Ça les retape. Hein. Et puis... Oui, l'Église ne donne pas cette image aujourd'hui, je pense, pour les gens qui connaissent mal l'Église. Donc c'est sûr qu'il faut repenser peut-être la forme que prennent nos communautés paroissiales, certains aspects d'organisation, de structure, de mentalité qui sont pas profondément évangéliques, qu'il faut réévangéliser, voyez ? À mon avis, la structure de l'Église actuelle est trop pyramidale. C'est trop pyramidal. Est-ce que c'est normal qu'un évêque dans un diocèse s'occupe de tout, le pauvre homme ? Il faut qu'il s'occupe des paroisses, des paroissiens, des prêtres, des doyennés, du secours catholique, de l'enseignement catholique. Il est même patron de l'enseignement catholique. Non, mais imaginez tout ce qu'on lui met sur le dos. C'est plus qu'une entreprise, quoi. Et il doit être partout, être expert en tout, avoir les bonnes décisions dans tous ces domaines. Mais c'est pas possible. Est-ce que c'est réellement nécessaire? De quoi a-t-on besoin à la tête d'un diocèse? D'un pasteur. On a besoin d'un pasteur, du bon berger, qui nous mette sur le chemin, qui nous fortifie, qui nous édifie. On n'a pas besoin qu'il s'occupe des nominations des profs des lycées catholiques, ou, vous voyez, ou de gérer les biens de l'Église, les biens immobiliers, mais qu'on donne ça à d'autres personnes. Alors ça se fait déjà, en partie. Mais vous voyez, cette structure pyramidale, elle était un peu trop forcée, en fait. Et on a perdu du potentiel. On a perdu du potentiel parce que pendant que l'évêque s'arrache les cheveux sur les biens de l'Église, et ben pendant ce temps-là, il n'est pas au milieu de son peuple à annoncer l'Évangile. Ouais. On pourrait dire la même chose des curés de paroisse, hein, qui ont tout entre les mains, et du coup, ils sont débordés, ils sont en déprime, bah oui. Alors, je sais que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais voilà, il faut jouer cet aspect communautaire. On porte ensemble l'Église. C'est ensemble que la mission va se faire. Bon, j'ai été frappé, je vais terminer par cette petite histoire, j'ai été frappé d'une expérience en Polynésie. J'étais sur l'île de Rangiroa, alors c'est assez loin déjà de Tahiti, hein, c'est au moins 350-400 kilomètres. On est obligé de prendre l'avion pour y aller, donc c'est quand même des communautés... Bon. Sur l'île de Rangiroa, qui est simplement un cercle... Hein, de corail en miettes, un atoll avec quelques palmiers. Alors, il y a la mer à l'extérieur, il y a la mer à l'intérieur. Ouais. Bon, 1300 habitants, la capitale. Je vais là-bas Et je découvre une église qui n'a pas de prêtre. Parce que, vous voyez, la Polynésie, c'est grand comme l'Europe plus la Russie. Il y a 250 îles. Et l'évêque doit avoir une quinzaine de prêtres. Donc son choix, qui se comprend, a été de tous les mettre à Tahiti, où 2/3 de la population est là. Chacun a une paroisse à Tahiti, et chacun a des îles dont il est responsable. Mais il y passe 2 fois par an. Donc je me disais, mais les pauvres chrétiens là-bas, ça doit être une catastrophe. Eh ben pas du tout. J'ai trouvé une communauté très vivante. C'était l'année eucharistique. Tous les soirs, ils se retrouvaient dans la chapelle pour un temps d'adoration. Tous les soirs. Ils étaient au moins 80. Et alors quand je suis arrivé, ils étaient en fête. Ils m'ont dit, oh bah t'es diacre, alors tu vas pouvoir faire le salut du Saint-Sacrement parce que nous, on n'a pas le droit. Hein. Et puis une homélie, il fallait faire une homélie. Le lendemain, il y avait procession de la Vierge Marie dans le jardin de Madame. Oh ben, faut que tu viennes nous faire une homélie. Alors, on a promené la Sainte Vierge dans le jardin de la Dame. Il y avait encore 150 personnes. Donc, une communauté extrêmement vivante, alors que le prêtre ne passait que 2 fois par an. Je ne veux pas dire qu'il était inutile, vous voyez, mais quand même, c'est beau de voir qu'une communauté réussit à se maintenir et à se développer. Parce qu'ils en préparaient des gens au baptême. Alors le prêtre venait, il faisait les baptêmes que le catéchiste avait préparés. Voilà. Et j'ai repensé à cette parole de saint Irénée qui dit « Là où est l'esprit, là est l'Église. Ben, » L'esprit était là, sur cette petite île, et soutenait ces chrétiens dans leur vie chrétienne et dans leur mission même. Voilà, ça doit nous ouvrir les horizons, hein, parce qu'on se plaint toujours. Ah ben on n'a plus ci, on n'a plus ça, on n'a plus rien, on pleure sur nos ruines. Non, il y a des tas de formes d'églises qui sont fabuleuses et où les chrétiens tiennent. Hein, et non seulement tiennent, mais annoncent l'évangile.
Rebâtir le temple, vous venez de suivre une intervention d'Étienne Dallaire, diacre du diocèse de Nîmes, membre de la communauté des Béatitudes, une intervention enregistrée lors d'une session des Béatitudes à Lourdes en 2022.